Exact. On a de la belle visite en studio. C'est rare qu'on ait la chance de le voir. Il est très occupé. Il y a des projets un peu partout dans la ville. Son nom, c'est William Trudel. Il est président et chef de la direction de Trudel Alliance. Il a décidé, par l'entremise du Soleil et de la station Boulevard, de s'adresser aux candidats à la mairie de Québec. Très content de t'accueillir, William. Salut.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Ben oui, ça va. Travailles-tu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Vous avez des projets partout?
32 heures sur 24.
32 heures sur 24.
8 jours sur 7.
Ah oui, bon.
Non, mais écoute, on
travaille. C'est ton équipe qui va être contente de savoir ça.
Oui, on travaille beaucoup. On travaille beaucoup. C'est sûr, quand tu es en affaires comme ça, il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas d'horaire. Tu peux pas commencer à dire, ben là, c'est l'action de grâce, je vais prendre ça relax, il n'y a pas d'horaire, nous autres. D'un autre côté, il faut faire attention aussi pour bien balancer la vie privée avec la vie professionnelle, ce qui n'a pas toujours été le cas. Je vous dis pas que c'est un 10 sur 10, mais je pense que c'est mieux qu'avant.
Ben quand tu es passionné, c'est dur d'être équilibré.
Mais ça, c'est l'autre affaire. C'est que moi, tu sais, je travaille pas. Je travaille jamais.
Tu t'amuses.
Ben oui, moi, je travaille jamais 7 jours sur 7. Je travaille pas, moi. Je m'amuse avec mes amis, je m'amuse avec les employés, je m'amuse avec la famille au travail. Fait que, tu sais, c'est facile dans ce temps-là, t'as pas l'impression de travailler. Ouais. Même, je te dirais, j'ai jamais travaillé. Les 20 ans que j'ai fait à la police de Québec, j'ai jamais eu l'impression que je travaillais.
Ben là, quand t'es en mission comme policier à travers le monde, moi, j'appelle ça un travail, là, quand tu risques ta vie à tous les jours.
Ben oui, c'est certain que c'est plus compliqué.
Nous, prends moi, Max puis Jeff, on risque notre vie à tous les jours.
Ah vraiment? Hein? Derrière le micro, il y a quelqu'un qui peut m'écrire un message douloureux sur Facebook.
Et me faire de la peine.
Oui! Et là, être marqué
lui,
à vie.
Mais il risquait de se faire tirer dessus.
En Haïti, y a-tu de la violence en Haïti vraiment?
C'est triste.
T'as décidé de t'impliquer au niveau politique, mais à ta façon, en tant que président et chef de la direction de Trudel. Tu envoies un message rassembleur, puis nous, quand on a vu ton message, on dit pas le choix, faut le déranger, faut qu'il vienne nous voir. Pourquoi avoir décidé d'écrire au candidat à la mairie de Québec?
C'est une démarche apolitique en passant. Quand on regarde comme faut la lettre ouverte que le Soleil publie ce matin, que j'ai écrit en fin de semaine, on voit très bien que c'est pas en faveur d'un candidat ou de l'autre, ou ni contre un candidat ou de l'autre, mais je ressens un malaise présentement. Je ressens un malaise dans la région de Québec, j'entends un malaise, les gens m'en parlent. Puis le malaise que je ressens puis que j'entends, c'est que la région, présentement, je la trouve divisée. Puis je trouve que la Rive-Nord travaille pas bien avec la Rive-Sud. Je trouve que le municipal travaille pas bien avec le provincial. Le provincial puis le fédéral, c'est pas parfait. Puis le résultat de ça, c'est qu'il y a des grands enjeux puis il y a des grands dossiers présentement qui sont décisifs, majeurs, qui vont changer l'histoire de la ville de Québec pour toujours. On sera toutes plus là, toutes les quatre ici, puis les gens qui nous écoutent à la radio, on sera toutes plus là de ce monde-là. Puis les décisions qui vont se prendre dans les 2, 3, 4 prochaines années vont être encore là pour des centaines d'années à venir. Puis j'ai l'impression qu'il faut prendre un pas de recul un peu. Puis on dirait que les idées sont en opposition aux autres. Je vais vous donner un exemple. Un réseau de transport structurant, moi, selon moi, là, c'est aucunement en opposition avec une interconnexion améliorée Rive-Nord-Rive-Sud.
Parfaitement d'accord.
C'est pas du tout en opposition, c'est même complémentaire.
Exact.
Là, on arrive avec le fédéral qui dit « ben j'aimerais un projet de TGV Québec-Windsor ». D'accord. Est-ce que le projet de TGV Québec-Windsor il est intégré avec l'aéroport? Est-ce que l'aéroport, le TGV, le réseau de transport structurant se parle? À peu près certain que non. Est-ce que ça va être intégré avec une connexion Rive-Sud? C'est certain que ça ne se parle pas non plus. Après ça, on arrive dans le dossier du logement. Ben il manque du logement. Il manque quelle sorte de logement? Bien, c'est facile la réponse. Il manque toutes les sortes de logements. Là, le privé a besoin de zonage puis de permis de bâtir qui ne prennent pas 3-4 ans. Je l'ai dit 1000 fois, je vous l'ai dit ici, il y a des dizaines de fois. Okay?
Bien, il y a une cote que tu as dit, moi, qui m'avait marqué, c'était pendant le temps des fêtes. Il y a une journaliste qui avait été de voir, si je ne me trompe pas, c'est à Place Fleur-de-Lys. Puis tu avais dit, bien, si c'était comme dans les 12 travaux d'Astérix, là, ce serait déjà bien. Ça veut dire que c'est encore pire que
ça. En fait, j'ai eu même l'occasion de témoigner comme témoin expert dans une commission parlementaire au Parlement fédéral.
Ouais.
Puis le président, Mr. Chairman, là, il m'a demandé, ben M. Trudel, plein d'élus étaient là de toutes les parties. Puis il voulait savoir qu'est-ce que le gouvernement fédéral pouvait faire pour aider les entrepreneurs au Canada pour leur simplifier la vie. Puis j'ai dit à la blague, Ben, si vous. Là, il dit quel modèle que vous proposez, M. Trudel? Ben, j'ai dit, si vous prenez le modèle des 12 travaux d'Astérix, ça va être une nette amélioration. Tu comprends? Il y a 3 parties sur 4 qui l'ont trouvé drôle, il y en a un qui ne l'a pas trouvé drôle. Ouais. Moi, je trouvais ça drôle pareil de dire ça par la peine. Ça m'a quand même fait plaisir. Ouais. Ça a été repris dans les médias du Canada anglais à de nombreuses reprises. Ouais. Mais revenons au dossier du logement. Là, c'est qu'on se retrouve que le logement social, l'idéologie du logement social et l'idéologie du logement privé sont en opposition, alors que ça devrait être des partenaires. Puis pour que ça soit des partenaires, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut innover, puis il faut revoir un modèle de développement de logement social qui existe depuis les années 60, puis qui ne marche plus. Pourquoi ça, je dis que ça ne marche plus? Parce que ça prend des milliers d'unités, puis on a de la misère à en faire 12. Fait que ça ne marche plus. Fait que si ce modèle-là ne marche plus, puis là, tu as le privé, lui, qui a besoin de zonage puis de permis de bâtir, puis ça prend 3-4 ans à chaque fois, ça non plus, ça marche plus. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est que là, le réseau de transport, lui, il est en opposition au troisième lien pour la connexion entre les deux rives. Fait que là, quelqu'un, lui, qui veut une connexion entre les deux rives, il est contre l'autre réseau, puis là, l'autre... Là, le logement social, ça en prend, puis ça en prend, là, j'ai toujours dit ça. Mais ça en prend. Puis nous autres, on est là-dedans à temps plein avec une équipe de 260 personnes dédiées.
Ouais.
Puis on n'arrive jamais à journée qu'on a des permis pour faire du logement social. Fait qu'il ne marche plus le modèle.
Avec Jeff et Max, on parle souvent de ça. Bon, on est là-dedans, là, les élections municipales. Les maires et les mairesses, à la grandeur de la province, parlent de leur bilan. Les maires et mairesses sortant, bien entendu, parlent de leur bilan. Puis ils disent souvent, on a construit des logements. On a construit des logements.
Ouais.
Mais quand est-ce qu'une mairie construit des logements? Je comprends pas pourquoi ces gens-là se prennent constamment du crédit sur les logements en disant « on a construit ». Moi, ce qui est géré par l'État, que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral, quand je rentre dans ces bâtisses-là, je me dis « mais tabarouette, c'est sérieux, c'est assez particulier ». Puis quand je vais dans une bâtisse qui est construite par le privé, ben là, je vois la propreté, tu sais, je vois tout ça. Pourquoi ces gens-là s'accordent un crédit qu'ils n'ont pas? Ils bâtissent pas. Ils devraient pas bâtir, en fait. Ils devraient octroyer des permis, c'est tout.
Bien, ça me fait toujours un peu sursauter. Là. Ça m'agace toujours un peu d'entendre des politiciens, puis je vise personne, parce qu'on le voit à plein de places au Québec.
C'est la grandeur du Québec.
Que nous autres, on bâtit, puis on va bâtir ça. Mais les amis, là, j'en parle dans ma lettre dans le soleil là, que je vous invite à lire, là, vous bâtissez rien ou très peu. Votre job à vous autres, c'est de mettre en place un écosystème, j'en conviens, qui est complexe. Mais votre job, c'est de mettre en place un écosystème qui fonctionne, puis je vais vous le dire en bon français, comme on est habitué, qui dégadine pour que le privé, avec sa propre argent, prenne ses risques puis construise. Puis si on veut faire du logement social au travers de ça, entre, appelons ça, qui est hors marché, c'est bien correct, c'est tout à fait correct. Mais pourquoi? Pourquoi que le privé n'aurait pas le droit d'inclure dans certaines phases du logement social? On l'a essayé plein de fois, ça. On l'a essayé plein de fois. Là, tu te butes à une affaire que là, le logement social, il faut qu'il soit un OSBL. Là, l'OSBL, il faut qu'elle soit propriétaire de son terrain.
Et des chances gardées.
Fait que là tu as ton terrain, il faut que tu le redivises en deux, il faut que tu refasses un lot à part. Le lot t'appartient plus. Fait que là, c'est. Là, ça peut déclencher des différentes taxes là-dedans. Pourquoi à place là, qu'un promoteur privé n'aurait pas le droit d'inclure du logement social au travers de ses immeubles? Puis que ces logements-là, au lieu de les obliger, comme Montréal a essayé de faire et que ça a été un fiasco et qu'une catastrophe, et que la plupart des sociétés à travers le monde qui ont décidé d'obliger ça par règlement, ça n'a pas fonctionné, pourquoi qu'il n'y aurait pas des incitatifs financiers? Pourquoi que le logement social dans mon immeuble, il ne serait pas payé par le gouvernement et que j'ai le droit de prendre cet argent-là pour mettre ma mise de fonds pour faire l'immeuble, pour en bâtir plus puis plus vite? Mais il y a des situations de même là, qui apparaissent tellement claires, mais qu'est-ce qui arrive là-dedans, Yannick? C'est que tu viens brasser, tu viens shaker un modèle des années 60. Puis il y a beaucoup de gens, puis il y a des fonctionnaires qui sont payés pour faire marcher ce modèle-là, puis ça ne le tente pas.
Ils veulent des loyers moins chers, mais ils prennent 500$ par mois pour les taxes.
Mais ça, c'est une autre affaire. Chaque nouvelle taxe, chaque nouvelle réglementation que les trois paliers de gouvernement nous donnent va nécessairement dans le coût du loyer. On a vu la SCHL, qui est un organisme fédéral majeur. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le premier ministre Carney quelques jours avant son élection à ce sujet-là. Je lui ai clairement expliqué qu'est-ce que la SCHL pouvait faire pour nous aider. Puis quelques mois après, puis là, je pense bien qu'il n'y a pas de relation entre ma discussion et qu'est-ce qui est arrivé, bien entendu. Quelques mois après, la SCHL, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont doublé les primes qu'ils nous chargent. parce qu'ils disent que la situation est plus risquée qu'avant à cause de l'économie.
Ouais, t'imagines.
Fait qu'ils ont doublé les primes dans un immeuble, comme vous voyez, qui est en construction sur le bord de Laurentien, juste à côté de nous autres, à Fleur-de-Lys. Là. C'est plusieurs millions de dollars de primes à CHL de plus qu'avant qu'on paye. Vous pensez qu'il arrive quoi avec ces millions-là? Ils vont où, ces millions-là?
Ben, ils vont chez le locataire qui va se faire augmenter. Ben oui.
Il n'y a pas de magie là-dedans, les gars. Tu prends le coût de l'immeuble total, tu prends la petite calculatrice sur ton iPhone, tu le divises par le nombre de loyers que ça donne, tu amortis ça sur 50 ans, puis c'est ça que ça coûte au monde. Ça n'a pas le choix.
C'est clair, ça n'a pas le choix. J'ai deux questions pour toi. Dans ta lettre, moi, j'aime bien, tu dis une ville presque comme une entreprise à ton point 5. On n'écoute pas assez, justement, nos entrepreneurs et nos entreprises ici à Québec, et je vais l'élargir au Québec, parce qu'on manque clairement d'innovation.
Mais ça, c'est une autre chose. Puis je le comprends très bien, OK, qu'une ville, c'est pas une entreprise. OK, puis il y a des sensibilités différentes, entre autres, sur des grands dossiers, comme on a déjà parlé ensemble, l'itinérance. Il y a des sensibilités différentes que, bien entendu, ce n'est pas juste économique. Il y a d'autres préoccupations, je le comprends très bien. Mais il y a une culture, je trouve qu'il y a une culture au Québec, là, que... Les entrepreneurs, c'est comme du monde bizarre.
Ouais.
Eux autres, ils pensent
on
bizarre.
On n'aime pas ça, les riches.
Eux autres, là, ils ont des idées, là, pas comme d'habitude, là. Puis là, ces idées-là, ça nous sort de notre zone de confort.
Brasse-toi le modèle.
Puis là, faut qu'on fasse différemment qu'avant, là, parce qu'eux autres, là, ces entrepreneurs-là, ils ont des idées d'innovation. Ça, c'est compliqué. Nos lois, nos règlements sont pas faits pour ça. Puis notre guide de procédure, là, puis notre guide, là, il n'est pas fait pour ça à la ville puis au gouvernement. Moi, je pense que on a plusieurs entrepreneurs au Québec à succès dans plein de domaines. On en a beaucoup, là. On est un peuple ingénieux. On est un peuple qui est capable d'aller plus loin. On est courageux. On est persévérant, comme les Québécois. Pourquoi qu'on ne s'inspire pas plus des entrepreneurs à succès? Puis pourquoi un maire, un premier ministre, appelle pas régulièrement des entrepreneurs à succès pour dire « Écoute, Joe Blow, qu'est-ce que tu penses de telle situation? Tu vois ça comment? Quelle solution que tu verrais là-dedans? » Mais c'est comme si au Québec, là, il y a une mentalité, là, un entrepreneur, là, c'est étrange. Probablement qu'il est là juste pour faire de l'argent, puis c'est juste ses intérêts à lui, puis la communauté, il se fiche de ça, puis il n'a pas besoin. Donc, on va y dire non. On va y dire non pendant 2-3 ans. On va y mettre 12 paliers de réglementation différents, puis il va falloir qu'il prouve. Lui, il part coupable la journée 1, puis il faut qu'il prouve aux 12 paliers que son idée est bonne. Puis peut-être que dans 3 ans, on va finir par y donner un permis de quelque chose. Mais ça a fait quoi, ça? Ça a fait une crise du logement. Pourquoi qu'il y a une crise du logement? Parce qu'elle est artificiellement inventée par des réglementations qui finissent plus.
Oui, puis corrige-moi, je me trompe, puis là, je dis pas ça parce que tu es là, je le pense vraiment, mais un entrepreneur comme toi, puis je vais te donner l'exemple aussi du projet 401, les gens qui vont reprendre l'ancienne maison Laubrivière puis le transformer en logement. Vous êtes rendu dans la création de milieux de vie, là. Vous pouvez pas passer à côté de ça. C'est ce que les gens ont besoin, c'est ce que les gens demandent. Fait que à la base, vous allez répondre aux besoins du citoyen.
Absolument. Puis il y a plein de décisions qu'on prend à chaque jour dans nos entreprises que l'angle de prendre la décision n'est pas uniquement économique. Il y a plein de décisions qu'on prend comme ça. Ça prend ça. Les gens nous demandent ça. Le projet va être bien meilleur comme ça. Puis on la prend, la décision. Mais d'un autre côté, si on décide de faire plus d'espace vert, si on décide de payer des équipements au bénéfice de la communauté, bien probablement qu'à certains endroits, ça nous prend plus de densité. Mm-hmm. C'est des vases communicants. Puis c'est ce dialogue-là, je trouve, des fois, qui est difficile. Puis faisons bien attention, là. Je dis pas que ce dialogue-là est plus difficile avec l'administration municipale qu'on a présentement. C'est pas ça que je dis du tout. L'administration municipale qu'on a présentement, l'administration Marchand, dans les deux dernières années, mettons, peut-être 3 dernières années, a vraiment pris une vitesse accélérée parce qu'il y a eu des années très difficiles en début de mandat. Ouais.
Le moment, ça a été quand Pierre Poilievre a utilisé un qualificatif qui était peut-être un peu particulier pour certains, mais quand il a traité Valérie Plante et Bruno Marchand d'incompétents, ouais. Là, on dirait qu'il y a un mot d'ordre qui a été donné aux fonctionnaires, puis la machine a commencé à bien travailler. Mais ça prenait...
Alors qu'il était à Fleur de Lys à côté de moi, là, je l'ai comme regardé, j'ai comme fait, Pierre...
Ah oui, il dit ça à côté de toi!
Pierre!
OK, je m'en souvenais pas qu'il était à côté de toi à ce moment-là.
Ben, on se rappellera là, que lorsque M. Poilievre a dit ça, il venait de terminer une visite à Fleur-de-Lys où je lui avais expliqué comment c'était compliqué.
Ah, okay.
Par contre, effectivement, nous étions à cette époque-là, il y a 2-3 ans,
ouais.
Dans des années où la ville de Québec et la ville de Montréal étaient parmi les pires au Canada sur les permis de bâtir. Rappelons-nous de ça.
Oui.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a eu un retard qui s'est rattrapé. l'administration a pris un grand pas en avant. Faut continuer dans ce sens-là. Mais c'est une chose que je suis convaincu que les 4-5 personnes qui se présentent présentement à la mairie, là, je suis convaincu qu'ils comprennent, qu'ils savent qu'il y a une crise du logement, puis qu'ils comprennent que leur rôle, c'est de mettre les conditions macro, réglementaires, économiques en place pour que ça fonctionne. Mais en dessous, il y a toute une machine administrative. Puis les fonctionnaires de la Ville de Québec là, sont compétents, sont engagés, je l'ai toujours dit. Se faire répondre à des courriels le vendredi soir, ça nous arrive régulièrement par des fonctionnaires de Québec. On n'est pas du tout d'un contexte de fonctionnaires paresseux, pas du tout, OK? Mais il y a tellement de règlements, puis il y a tellement de paliers décisionnels. Regardez l'eau d'Hotchester, là, c'est pas encore commencé l'eau d'Hotchester. Pourquoi? Parce que ça taponne encore avec la commission d'urbanisme depuis des mois qui veut faire de l'architecture fancy. Fait que là, on retourne là, puis on essaye un compromis, puis là, le compromis nous fait perdre 12 logements. Fait que ça, ça se peut pas. On peut pas perdre 12 logements, je bâtirai pas.
Attends, faut que ça soit viable, ton enfant.
Fait que là, on essaye de prendre les commentaires, on fait travailler nos architectes, mais tu sais, il y a du temps à ça, il y a du délai à ça.
Puis il y a des coûts.
Il y a des coûts à ça. Les gens ne sont pas conscients des délais qu'ils engendrent, puis comment qu'il y a des coûts à ça. Puis mettez-vous du point de vue de la Ville de Québec, là, que ça a pris 4 ans, pratiquement, à avoir le zonage de Fleur-de-Lys, là. Au lieu, mettons, que ça n'aurait pris 2 ans. Je suis d'accord, il y a eu une pandémie là-dedans, disons-le, OK? Mais mettons que ça aurait pris 1 an plus tôt de Fleur-de-Lys. Imaginez-vous les taxes municipales qui rentrent à la ville. Non, mais les amis, mais on est donc bien riches pour se priver de taxes de même. Moi, là, c'est-tu quoi? J'ai les deux mains de même, là, comme à l'église.
Ça serait combien, les taxes de Fleur-de-Lys?
Non, c'est en millions de dollars. Pensez-y, là, on a acheté Fleur-de-Lys, ça valait 60 millions. Fait que t'es taxé au rôle sur 60 millions. Puis même qu'on aille fini avec, ça va valoir 2 milliards. Calcul entre les deux, c'est pas long, là.
On est riches.
Puis c'est-tu quoi? Calcul-là sur 10 ans, c'est des dizaines et des dizaines. Puis là, je te dirais peut-être des centaines de millions de dollars de taxes qu'on va payer. Puis moi, je suis de même, comme à l'église, les deux mains croisées pour dire « Hey, je peux-tu vous payer des taxes plus vite, s'il vous plaît? » Puis ça dégadine pas. On est donc bien riches.
Dans ton discours, William Trudel, dans ta lettre ouverte dans le soleil qu'on peut lire, moi, c'est beaucoup, c'est l'union qui m'a marqué parce qu'une capitale divisée n'ira nulle part. Depuis que je suis jeune, on me parle du projet de repeinturer le pont de Québec. Ça ne s'est jamais fait. Je passe encore dessus en fin de semaine. C'est encore une verrue qu'on a dans le décor, le pont de Québec. Puis on espère qu'il t'offre le plus longtemps possible parce qu'on en a de besoin. Mais bon, ça a progressé dans les derniers mois, là, le pont de Québec. Mais le fameux troisième lien, ça fait combien d'années qu'on en parle? On est encore là-dedans. Le fameux tramway, ça fait combien d'années qu'on en parle? On est encore là-dedans. Il y a toujours de la chicane, constamment. Plutôt que d'unir tous ces projets-là ensemble, comme tu parlais tantôt en début d'entrevue, on essaie de toutes les séparer. Puis encore là, pour ce qui est des candidats à la mairie de Québec, là, chacun essaie de dénigrer le projet de l'autre plutôt que d'essayer de trouver le positif de tout ça. Puis tu dis que les médias ont un rôle à jouer aussi en tant que défenseur de Québec. Ce serait quoi le rôle des médias, selon toi? Tu dis un discours plus sain, informatif, factuel? C'est quoi le problème avec les médias à Québec?
Je le ressens, le malaise dans la communauté. Là. On le ressent partout, le malaise dans la communauté. Là. L'objectivité. D'être plus factuel, d'être plus objectif. Il y a deux choses. Il y a des médias d'opinion, que c'est clairement ça leur mission. Vous en êtes une. Il y a d'autres postes de radio. Il y a des médias que c'est des médias d'opinion. Puis on le sait que c'est un média d'opinion, puis quand on écoute cette station-là ou quand on lit ce média-là, c'est un média d'opinion, puis c'est correct, c'est un média d'opinion. Puis il y a d'autres médias qui sont informatifs. Bien, les médias qui sont informatifs pourraient peut-être être un petit peu plus factuels puis objectifs, puis laisser les gens réfléchir puis prendre leur opinion par eux-mêmes. Des fois, je le ressens qu'il y a un malaise là, dans la région de Québec sur certains médias qui semblent toujours...
C'est le fait qu'il y a des candidats qui soient propulsés par certaines stations qui te dérangent?
Des candidats qui soient propulsés, des sujets qui sont peut-être plus traités que d'autres, des sujets qui, souvent, c'est les mêmes experts qui donnent leur opinion pas mal tout le temps sur le même côté. Fait que, tu sais, je suis pas certain que c'est sain, ça, dans le débat. Tu parlais du troisième lien tantôt.
Ouais.
Tu parlais du pont de Québec qui est tout rouillé. Là, prenons un petit pas de recul, là. Arrêtons de dire que le tramway est en chicane avec la SRB qui est le troisième lien. Prenons un pas de recul, OK? Tout l'est de la province de Québec... À partir de Trois-Rivières jusque dans l'Est, incluant Côte-Nord et Gaspésie. C'est gros, ça, c'est grand, puis c'est du monde.
Ouais.
Puis c'est beaucoup de trafic, puis c'est beaucoup de camions. Tout ça, là, ils ont deux liens qui traversent le fleuve, un à côté de l'autre, dont il y en a un qui a 100 ans. Y a-t-il quelqu'un qui pense que c'est une bonne idée?
Ben non, tu sais. Mais les experts pensent que oui.
Ben, ils penseront ce qu'ils voudront.
Les experts du gouvernement?
Ben, ils penseront ce qu'ils voudront. Moi, je pense qu'il y a deux ponts, un à côté de l'autre, ouais. dont un qui a 100 ans pour faire la moitié d'une province au complet. Je pense pas que c'est une bonne idée. Mm-hmm. Ouais. Fait qu'à un moment donné, rendu là, prenons un pas de recul, puis regardons comment qu'on développe notre région. Puis notre région, c'est l'ancrage de toute une moitié de province. Comment qu'on la développe pour les 100 prochaines années à venir, pas rien pour dans un an, deux ans, trois ans pour se faire élire.
J'ai une question pour toi par rapport justement à la densification urbaine, parce que tu en fais partie, justement, Fleur-de-Lys et l'eau d'Orchester, bon, on les a nommés tantôt, les projets. Est-ce que ça peut vivre sans un réseau de transport structurant?
Ça prend un réseau de transport structurant à Québec. Et là, je n'ai pas ni la connaissance ni l'expertise pour vous dire lequel réseau que ça prend, puis c'est-tu le bon tracé, puis c'est-tu le bon moyen, puis ça va-tu marcher l'hiver, ça marchera-tu pas l'hiver? Hey, j'ai aucune idée. Mm-hmm. En toute humilité, là, j'ai pas ces connaissances-là.
Mais tout ce que tu sais, c'est qu'en rajoutant du monde de même en ville, ça va prendre du transport additionnel.
Prenons le même pas de recul qu'on vient de prendre dans le dossier du troisième lien, OK? Là, on est 500 000 dans la ville de Québec, mais grande région métropolitaine de Québec, là, on est 800 000. Mm-hmm. Puis selon de nombreuses statistiques indépendantes, Québec est dans les villes canadiennes, dans le top 3 des villes canadiennes qui va connaître le plus gros essor de population dans la prochaine génération. Nous, on va voir bientôt être 1 million. Puis nous, ici, de notre vivant, là, on va probablement voir qu'on s'en va vers 1,5 million un jour, là. Y a-tu quelqu'un qui pense qu'une région qui est à 800 000 puis qui va doubler dans l'espace d'une génération va pouvoir le faire sans réseau de transport structurant? Prenons le même pas de recul qu'on vient de prendre avec les deux ponts qui n'ont un 100 ans à côté de l'autre, que c'est pas une bonne idée. C'est-tu une bonne idée de ne pas avoir de réseau de transport structurant d'une ville qui va doubler? Ben non, c'est pas une bonne idée. Ouais. C'est certain que ça en prend un.
Mais comme tu dis, il faut avoir une vision à long terme, puis il faut bâtir en hauteur au centre-ville de Québec. Dans le Vieux-Québec, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions aussi. Où est-ce qu'on en est avec tout ça? Mais tu sais, quand on est rendu à se chicaner avec la ville, des fois, pour un étage, deux étages, trois étages, c'est vraiment compliqué. Si on veut un transport structurant, puis on veut des gens dedans, ça prend une densification pour ça.
Bien, c'est qu'il manque du logement, puis il va en manquer encore de plus en plus parce que la ville est en plein essor. Puis là, ça, c'est une autre affaire qui m'agace, les gars. Quand je suis rentré dans le studio, là, vous étiez en train de parler de l'immigration, là, oui. Puis qu'il y a des changements majeurs dans ce dossier-là, OK? Quand on a une situation positive, on reçoit beaucoup de nouveaux arrivants, puis notre population d'origine de souche est en perte de vitesse. Le vieillissement de la population bat son plein présentement. Et là, nous, on reçoit des nouveaux arrivants. C'est supposé d'être une solution, ça.
Oui.
Mais nous, ça vire tout le temps un problème. Là, il n'y a pas assez d'école. Bien là, baptisant. Ouais, mais là, la francisation. Faisant des centres de français, tu sais. Là, bon. Alors, là, le logement, là, il manque du logement. Là, c'est un problème ou c'est une solution? Là, tu as deux choix. T'élargis ton périmètre urbain. Il n'y a pas d'autre choix. T'élargis ton périmètre urbain, ce qui va faire de la déforestation, ce qui va enlever des terres agricoles, ce qui va faire de l'étalement urbain, ou tu redéveloppes la ville sur elle-même. Si tu redéveloppes la ville sur elle-même, bien, tous les services sont déjà là. Les pompiers sont déjà là, la police est déjà là. Si tu as planifié ton affaire comme du monde, les tuyaux d'eau et d'égout sont déjà là, le réseau de transport structurant va venir, puis etc. Mais si tu redéveloppes la ville sur elle-même, ça n'a pas le choix d'avoir des étages en hauteur. Il n'y a pas d'autre choix.
Est-ce qu'il y a encore une trop grosse chasse gardée? Tu es allé au fédéral, puis je termine là-dessus parce que je trouvais ça intéressant. Le fédéral versus le provincial, y a-t-il encore une trop grande chasse gardée sur « je vais vous donner de l'argent, mais il faut que ça soit absolument dans tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre. » Ça descend au provincial qui remettent des paramètres, ça descend au municipal qui remettent des paramètres. Fait que toi, comme entrepreneur, tu arrives avec 62 paramètres, tu en aurais peut-être besoin de deux.
Il y a des enjeux là-dedans, il y a des enjeux. Puis là, dans la région de Québec, là, on a deux nouveaux ministres pour la région de Québec. Mm-hmm. Au fédéral, M. Joël Lightbound. Puis au provincial, M. Jean-François Simard de Beauport. Puis Joël Lightbound dans le coin de Saint-Augustin. Mm-hmm.
Puis Joël Lightbound a pour mission de simplifier le gouvernement.
Bon, de un. Mais de deux, M. Simard, M. Lightbound, dans mon livre à moi, il devrait devenir rapidement les meilleurs amis du monde, puis aller prendre la bière à la cage au sport le soir, puis se jaser des enjeux de la région de Québec, là. Ces deux personnes-là doivent
tu vas leur payer le pichet.
Ben, s'ils veulent. Mais tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que le maire de Québec ou la mairesse de Québec, peu importe c'est qui, doit avoir d'excellentes relations avec le premier ministre du Québec, peu importe c'est qui. Puis les paliers de gouvernement puis les ministres responsables de la région de Québec et le maire doivent avoir d'excellentes relations aussi avec le fédéral et peu importe c'est qui. Et lorsqu'on tombe élu, lorsqu'on devient élu, là, l'allégeance politique puis le parti là, doit passer bien après les intérêts de la région de Québec puis de nos citoyens. c'est un peu le malaise que je ressens présentement dans la course à la mairie. J'ai l'impression que les grands enjeux s'affrontent. Puis quand il y en a un qui a une bonne idée, ben peut-être avoir l'humilité de dire « t'as vraiment, tu te présentes contre moi, mais je trouve que tu as une bonne idée, ça pourrait être bien de l'intégrer dans mon plan de match. » Encore faut-il que celui qui a la bonne idée, comme j'ai déjà entendu dans le passé, vienne pas dire par après « Regardez, c'était mon idée à moi, puis ils l'ont fait, ils sont pas capables d'en avoir par eux-mêmes. » Ça, c'est de la lutte. La lutte, tu vas à la lutte, quand tu as le goût de te divertir, tu prends un popcorn, il y en a un qui monte ses câbles, il pète une chaise sur la tête de l'autre, ça s'appelle la lutte. Ça s'appelle pas faire de la politique pour faire avancer la région.
William Trudel, merci beaucoup d'être passé. Je rappelle aux auditeurs qu'on était avec William Trudel, président et chef de la direction de Trudel Alliance. Aujourd'hui, dans les médias, il s'adresse au candidat à la mairie de Québec. Un discours d'union, un discours de cohérence, un discours d'innovation. Et d'abord et avant tout, tu veux qu'on mette l'humain là. Je trouve ça franchement intéressant. Puis c'est le fun parce que les auditeurs nous ont écrit en disant « Voyons, donc ben de l'air inspirant, ce gars-là. J'aimerais ça travailler pour lui. Cherches-tu des employés chez Trudel Alliance? » Ça doit t'arriver souvent, ça.
Ben oui, on a pas de misère à embaucher, même si c'est toujours un défi et c'est un enjeu. Puis écoutez, ce midi, ben je suis conférencier à la Chambre de commerce. C'est un événement qui est sold out à l'Hôtel Plaza. Donc, j'aurai l'occasion peut-être encore là, de discuter de ça.
Parfait. Puis la question la plus embêtante, la mairie, c'est pour quand, William?
Ben là, l'élection, c'est que c'est en novembre, l'élection.
Ouais, mais j'ai pas remarqué.
Je suis pas là.
Le 3 octobre, c'était la date limite là, pour des candidats.
Ben, c'est passé le 3 octobre.
Ouais.
Puis je suis pas candidat.
Dans 4 ans.
On s'en jase dans 4 ans. Salut, William.
Salut.
Salut. Merci. Marceau le